Chapitre 17. L'exécution. Avec ses lointains, teintés de la brume bleuâtre et légère des chaudes matinées d'été, la rade de Brest s'étendait merveilleuse, à peine soulevée d'un lent et souple mouvement comme d'une respiration géante, et semblant suivre le cours de l'Élorne, le soleil ruisselait en nappe d'or par le large estuaire de la rivière de Landerneau pour s'épanouir en éblouissant et papillotant éventail sur l'immensité de l'Atlantique, prenant plus de chaleur, plus d'éclat à mesure qu'il s'élevait dans l'azur pâli du ciel. Immobile près de l'entrée de la Pinfel, à environ 400 ou 500 mètres du château et des côtes, un vaisseau de haut bord se tenait à l'ancre, toutes ses voiles carguées comme isolées, allongeant les lignes régulières de ses batteries, mais ayant cette particularité funèbre d'avoir ses vergues en pantaine et son pavillon en berne. Très loin, plus au large, semblables à des lourdes citadelles flottantes, hérissées de canons, d'autres grands navires. Puis, çà et là, quelques canots, animant d'un léger sillage d'argent la surface miroitante et dorée de la mer, sans cependant s'approcher de ce vaisseau solitaire qui mettait comme un emblème de deuil dans la joie de ce réveil radieux de la nature. Tout de même, à voir ce beau temps de fête et ce calme plat, on ne se douterait guère de ce qui se passe à cette heure à bord du Républicain, s'exclama un vieux marin amputé d'une jambe et qui, accoudé sur le mur terminant à pic le cours de la Réunion sur la rade, indiquait de sa longue vue le navire ancré vis-à-vis du port. « Fichu réveil qu'il a dû avoir l'homme à la peau de bique !» ricana un voisin, compère à la figure rude et basanée, vêtu en ouvrier de l'arsenal. « Bah, une fin de soldat qu'on lui prépare, c'est encore trop bon pour un chouan de son espèce !» interrompit un vétéran des armées de la République qui avait dû faire autrefois partie des Bleus et qui semblait garder rancune à ses adversaires des Landes et des chemins creux de Bretagne, de Vendée ou du Maine. « Vous l'avez connu, celui qui est là-bas ?» questionna l'ouvrier en s'adressant à ce dernier. Celui-ci répliqua, bourru, « Lui ou ses semblables, c'est tout un pour moi. Va que c'est la même graine, une espèce qui ne vaut pas cher mais qui se bat rudement bien. » Ah, on s'est fameusement canardé dans les genêts et dans les bois, d'abord sous Kléber et Marceau, puis plus tard sous Hoche, et que ça ne me paraît pas vouloir finir tant qu'on ne les aura pas exterminés jusqu'au dernier. Aussi, fier débarras qu'on ait mis le grappin sur celui-là, un chef paraîtrait, c'est toujours ça de moins. Le marin observa. Oh diable, ils ont affaire maintenant à quelqu'un qui ne plaisante pas avec ce qui est de la discipline, de la rébellion et des conspirations. Le citoyen Bonaparte. « L'empereur Napoléon, vous voulez dire ?» intervint un bourgeois cossu qui, une lunette aux mains, cesse un instant d'embraquer les verres sur le vaisseau pour prendre une allure importante et sévère. L'ouvrier grogna quelques mots à voix basse, en haussant les épaules, mais le marin ne répondit pas, et le vétéran regarda l'interrupteur de travers. Celui-ci, du reste, n'insista pas, accaparé par une jeune femme qui, essayant de se garantir du soleil déjà ardent, à l'aide d'une ombrelle de couleur tendre, minaudait. « Quelle foule ! Quelle foule ! C'est à croire que tout Brest s'est donné rendez-vous ici !» Le fait est que, malgré l'heure matinale, la promenade du cours de la Réunion se trouvait littéralement envahie et que, derrière les 5 à 6 rangs de curieux de tout âge, de tout sexe, entassés contre le mur donnant sur la rade et semblant attendre avec une patience plus ou moins nerveuse l'événement important qui devait se passer en mer sur le navire à l'ancre, des centaines d'autres, ne s'étant pas levés d'assez bonne heure ou n'ayant pu venir à temps, erraient çà et là, formant des groupes compacts qui essayaient de voir par-dessus la tête des privilégiés des premiers rangs. En outre, une société choisie occupait toutes les fenêtres sud et ouest des corps de bâtiments du château de Brest, des dames, de hauts fonctionnaires, des autorités, tout ce qui se rattachait au préfet maritime, le comte de Caffarelli du Falga, frère du vaillant soldat mortellement blessé au siège de Saint-Jean-d'Acre, au sous-préfet de la ville, Lefebvre de la Parquerie, au commissaire général de la police, Chézy, au général de division Guyot d'Urpère, commandant la place, et à l'administration. Là, les propos, avec des formes moins rudes, des tournures plus choisies, des phrases plus ampoulées, ne différaient pas sensiblement de ceux qui se tenaient le long du cours de la réunion entre les petits bourgeois, les gens du peuple et les soldats ou marins. Depuis 8 jours, la même fièvre dévorait Brest. Depuis que des affiches placardées de nuit, par ordre du préfet maritime, avaient annoncé l'arrestation d'un ancien chef de Chouan, auteur principal de l'attaque de la diligence de Quimper, la découverte d'une vaste insurrection préparée dans l'ombre par lui et par ses complices, ainsi que la menace d'un débarquement de troupes anglaises pour soutenir le mouvement et contrebalancer les préparatifs faits par Napoléon contre l'Angleterre avec l'installation du camp de Boulogne. Il n'en avait pas fallu davantage pour mettre de nouveau en rumeur cette ville, d'autant plus facile à impressionner que, depuis quelque temps, les événements tragiques semblaient s'y succéder avec une périodicité menaçante et que, toujours, elle se trouvait sous la menace d'une attaque de vive force de l'escadre anglaise qui ne cessait de croiser au large dans l'attente de quelque occasion favorable. L'incendie du vaisseau Le Patriote en plein port, l'exécution de Marchand, le grondant écho du procès, de la condamnation, de la décapitation de Georges Cadoudal et de 11 de ses complices, avec toutes les péripéties qui les avaient accompagnés, un assassinat étrange commis un soir dans la Grand-Rue par un marin sur un charretier et compliqué du suicide de ce meurtrier particulièrement suspect, venait s'ajouter à tous les faits précédents dont les Brestois conservaient toujours un souvenir vivace et angoissant. En effet, ils n'avaient oublié ni le procès Rivoire, ni la surprise de nuit de la corvette La Chevrette en rade de Camaret par les Anglais, ni les incessantes menées du ministre d'Angleterre, Lord Hawkesbury, comte de Liverpool. Aussi, le malheureux port se trouvait-il dans un état de nervosité terrible que le moindre incident excitait jusqu'à la frénésie, jetant le trouble dans la population, la terreur dans la bourgeoisie de la ville, la discorde et la défiance entre tous les partis dont la haine était plus endormie que complètement éteinte. L'affiche du préfet maritime fut comme une torche jetée dans un tonneau de poudre. On s'observa haineusement, on s'espionna. Les dénonciations affleurèrent au commissariat général. Les démarches les plus innocentes furent incriminées, et pendant 24 heures au moins, on put craindre de voir se renouveler les excès de la terreur ou de la réaction qui suivit. Ce fut par un véritable miracle que les propos et les allures de Jean-Marie Yanou ne lui attirèrent aucun désagrément et qu'il ne fut l'objet d'aucun soupçon. Quand on sut au juste à quoi s'en tenir et qu'on comprit que la ville de Brest ne semblait être nullement compromise dans cette nouvelle affaire, l'émotion changea de nature. La peur, l'anxiété se transformèrent en curiosité ardente, s'égarant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, avant d'être définitivement fixée. Si la police ne chercha pas, dès le premier moment, à calmer cette effervescence, c'est qu'elle espéra quelque temps s'en servir et, du flot boueux des dénonciations, de l'émoi des individus plus ou moins susceptibles d'être soupçonnés, tirer un profit immédiat en essayant de poursuivre par la même occasion tous ceux qui déplaisaient au pouvoir nouveau et discutaient encore l'empereur. Cela dépassait de beaucoup les intentions de parfait Lespervier. Il voulait bien apporter à Fouché et à Napoléon une bonne conspiration bien nette, bien groupée, formant bloc, ayant sa direction, sa tête, ses adjudants, tout comme Cadoudal dans sa dernière tentative, et peut-être vaguement derrière la foule obscure des comparses composant la possible armée insurrectionnelle, mais il n'avait pas entendu qu'on profiterait de l'occasion pour quelque nouvelle exportation ou déportation en masse de tous les ennemis du régime impérial. Il fut donc le premier à démontrer au commissaire général qu'en voulant trop embrasser, on risquait de laisser échapper les principaux coupables contre lesquels il ne possédait pas encore de preuves assez certaines. Il ne répondait en ce moment absolument que de ceux qu'il livrait, c'est-à-dire Mathieu Plourac et les Troidec, principalement les deux frères Alcide et Loïs. Ce qu'on devait juger, c'était non pas encore la conspiration proprement dite, dont les éléments ne se trouvaient pas entre ses mains, mais simplement l'attaque de la diligence de Quimper à Brest et le vol des deniers publics. Les trois decks n'avaient pu être arrêtés, puisqu'ils se trouvaient en mer ou sur quelque point des côtes, dans l'une des îles où on aurait su aller les chercher. Bien que l'espervier eût aidé à les faire évader de la tour de Camaret, il avait laissé exécuter contre eux la poursuite par défaut, sachant d'avance ce qu'il en ressortirait et comptant, au contraire, s'en servir pour peser davantage sur le principal, sur l'unique coupable, Mathieu Plourac. Il avait fait valoir au commissaire général que, le jour où il serait acquitté, comme cela n'était pas douteux, il reprendrait confiance, pourrait revenir la tête haute, délivré de tout souci, à Camaret, et reprendre leur existence habituelle. À partir de ce moment-là, lui, l'espervier, qui aurait continué à être pour eux le bienfaiteur, le sauveur, gagnerait mieux encore leur confiance et arriverait enfin à la complète découverte de cette fameuse conspiration qu'il sentait tout près de lui, qu'il tenait presque et qui, cependant, par certains côtés de mystère et d'ombre, lui échappait. Par les Troadecs, il parviendrait sûrement à Monique Kervella. Il pénétrerait en ami dans cette maison si fermée de Kerlock. Il découvrirait le secret qu'il savait cacher là et qui unissait Jean-Marie Yanou à cette descendante des Quatrozecs, soupçonnée, jamais vue et que rien ne l'autorisait à voir. Il fallait que ces Troadecs la menacent eux-mêmes à la jeune émigrée, comme un ami sûr, comme un complice, et qu'il tînt d'elle-même le mystère de la conspiration. Ce fut au sortir de l'abri de la tempête, en ce Camaret où il avait eu l'imprudence de revenir, ne se méfiant plus du chevalier de l'Espervier que des gendarmes arrivés de Brest, appartenant à cette fameuse gendarmerie d'élite dont le général Moncey était le grand chef de Paris et qui avait pour mission spéciale les arrestations politiques, se saisirent de Mathieu Plourac. Il voulut d'abord protester, tentant d'ameuter les pêcheurs contre ses agresseurs, mais ceux-ci étaient en force. De plus, dès qu'ils eurent annoncé qu'il y avait mandat d'amener contre le paysan de la Feuillée, non pas pour complicité dans l'évasion des Troadecs, comme il essayait de le faire comprendre, mais pour attaque à main armée du courrier de Quimper, les Camarétois, qui auraient été tentés de le soutenir par affection pour Cornélie et ses fils, n'osèrent plus se compromettre dans cette affaire de vol des deniers de l'État. Corentine, épouvantée, avait cru un moment que c'était d'elle qu'on voulait s'emparer. Mais l'espervier qui se trouvait là l'avait aussitôt rassurée, tout en ne lui cachant pas que son mari et ses enfants étaient mis en cause dans le procès. Tout bas, afin d'apaiser son premier émoi, il lui souffla. « Ne tremblez pas pour eux, ce sera peut-être le moyen le plus sûr de les tirer d'affaire et de les voir revenir auprès de vous, libres, débarrassés de toute crainte. » Comme elle voulait l'interroger, ne comprenant pas bien cette manière de les sauver, il lui avait fait signe de garder le silence en montrant les gendarmes au milieu desquels Mathieu Plourac se débattait et termina. « Pas besoin que tonton Mao le sache. Laissez-moi faire, j'ai mon moyen, et je vous promets que vous le trouverez plus tard excellent. » Malgré cette promesse, malgré les preuves de dévouement et de sollicitude données par le chevalier pour les pêcheurs, Corentine ne pouvait se défendre d'une impression sinistre sous les regards aigus de son interlocuteur. En dépit de l'espoir qu'il lui glissait dans le cœur, il la terrorisait, la fascinait de ses prunelles pénétrantes, et elle hésitait, oscillant de la haine à la reconnaissance, de la défiance à l'abandon absolu, sans pouvoir se fixer. À Brest, l'instruction fut vivement menée. Grâce à l'enquête patiente et habile, mystérieusement faite par parfait l'espervier, grâce aux recherches qu'il avait su porter dans les hameaux les plus obscurs, sous prétexte de trouver les vieilles pierres et d'étudier les antiquités du pays en écartant ainsi de lui toute méfiance, le dossier concernant le paysan de la Feuillée contenait tous les éléments les plus écrasants, tout un réseau de témoignages formidables contre Plourac. D'abord détenu au château, il avait été longuement, minutieusement interrogé, questionné sur ses tenants et ses aboutissants. Mais tout en reconnaissant les faits qui lui étaient personnels, en ne niant pas le présent et en ne reniant pas le passé, il se refusa absolument à donner les noms de ses complices et revendiqua pour lui seul la responsabilité de ses actes. On suivit exactement à son égard la procédure employée vis-à-vis de Marchand et un arrêté de l'empereur établit une commission militaire spécialement chargée de le juger. Un capitaine de vaisseau présidait, assisté de deux capitaines de frégate et de deux enseignes, et pour éviter tout prétexte de trouble dans la ville, pour empêcher, comme on le craignait, toute manifestation en faveur du prisonnier, toute tentative de délivrance, on le transporta pour le juger des prisons du château à bord du vaisseau le Républicain, qui fut ancré, à cet effet, à proximité du port. Débarrassé de ses liens, le prisonnier comparut, le front haut, une flamme de fanatisme indomptable brûlant tout au fond des orbites creusées de ses yeux, comme les dernières lueurs d'un feu sacré sur les autels d'un culte détruit, et promena sur les membres du tribunal d'exception qui allait le juger un regard impassible. L'acte d'accusation portait que Mathieu Plourac, du village de La Feuillée, dans les Monts d'Arrée, âgé de 60 ans, appelé de son nom de chouan Massacre Bleu, sobriquet suffisamment explicite, ayant, en d'autres temps et à plusieurs reprises, porté les armes contre la République, ayant, malgré ses crimes de tout genre durant cette période, bénéficié de l'amnistie générale qui avait suivi la pacification, était prévenu depuis de séductions, d'embauchages, d'attaques à main armée d'un courrier portant l'argent du gouvernement, du vol des deniers publics, d'assassinats commis contre les agents de la force publique, de relations avec les ennemis de la France et enfin de complicité dans une évasion pour avoir contribué à soustraire ses complices à la justice de leur pays. Le même acte comprenait dans la poursuite, seulement sur le fait de l'attaque de la diligence, Cornélie Troadec, âgée de 55 ans, pêcheur à Camaret, Alcide Troadec, 30 ans, Hervé Troadec, 28 ans, Loïse Troadec, 25 ans, Yves Troadec, 23 ans, Yann Troadec, 21 ans, Alain Troadec, 19 ans, en ne laissant de côté que Pierrick Troadec à cause de son jeune âge, tous également accusés d'avoir contribué à l'attaque dont Mathieu Plourac était le principal auteur. Ce long exposé laissa l'accusé absolument froid. Il haussa seulement les épaules d'un air de dédain et de muette protestation à la lecture du passage qui concernait les Troadec, sans même vouloir prendre la peine de détromper les juges à leur égard parce qu'ils savaient les pêcheurs en sûreté, hors de l'atteinte de la police. Questionné, il répondit à toutes les interrogations qu'on lui posa sur lui et refusa de répondre à celles qui ne le concernaient pas personnellement, persistant dans l'attitude qu'il avait eue durant les longs interrogatoires de l'instruction, tout en s'étonnant intérieurement de l'exactitude minutieuse des renseignements relevés contre lui. Comme il pensait que seul Ridolin avait pu fournir tout ce qui était relatif à l'attaque du courrier, il demeurait troublé de voir révéler de menus faits qui dataient de l'époque plus récente où l'espion, ayant été jugé et exécuté par lui avec l'aide des Troadec, n'avait plus pu faire aucun rapport. Cependant, l'espionnage, la trahison, avaient continué leur œuvre sourde. Mathieu Plourac en arrivait à se demander s'il n'existait pas quelque traître parmi les personnes mises dans le secret de la conspiration ou si un autre espion ignoré n'avait pas repris le travail commencé par Étienne Ridolin. Quelques instants, sa pensée volta autour de cette figure bizarre du chevalier de l'Espervier qui ne lui avait jamais plu et dont les incessantes promenades à travers la presqu'île de Crozon, les curiosités persistantes, lui avaient parfois semblé suspectes. Mais le souvenir de l'aide donnée par le chevalier pour faire évader les Troadec de la tour de Camaret, aide qui le compromettait, sans pouvoir lui servir à rien, semblait-il, déconcertait l'ancien chouan et l'obligeait à rejeter bien loin tout soupçon de trahison ou d'espionnage de sa part. En outre, ni Yannou, ni le recteur Judicaël Lecoit, ni Monique Kervella, ni surtout Anne de Quatrozec ne se trouvaient compris dans les poursuites. On semblait même ignorer leur existence. Une joie de martyr, se sacrifiant seul pour le salut commun, inondait de sa réconfortante rosée le cœur du partisan héroïque. Il se disait avec un élan de foi farouche « Qu'importe que je disparaisse, si on ne les soupçonne pas, l'œuvre pourra réussir grâce à eux et ils me vengeront. » Mais une surprise lui était réservée. Une autre joie de même nature devait lui être donnée. Quand les juges arrivèrent au Troarec, jugés par défaut, deux témoins à décharge comparurent qui innocentaient pleinement les Troarec de la complicité dont on les accusait. C'étaient Poulmic et le Gall. Les deux gardes-côtes du poste de la Pointe des Pois vinrent déclarer, sous la foi du serment, que, à la date même de l'attaque de la diligence entre Quimerche et le Fou, à cette heure précise de la soirée, heure d'entre chien et loup, que les Bretons appellent an trouble noz, la trouble nuit, les Troadec se trouvaient, avec leur barque les sept frères, entre la plage de Penhat et l'état de Poix, à hauteur environ de l'endroit de la côte connu sous le nom de Voroc. Comme ils étaient soupçonnés de se livrer à la contrebande, ils étaient précisément surveillés, et ce soir-là, Poulmic avait tiré un coup de fusil sur un homme qui escaladait la falaise. Il avait été reconnu que le blessé était Alcide Troadec, celui que le rapport de Ridolin accusait principalement, avec son frère Loïs, d'avoir aidé Plourac à assaillir et à dévaliser le courrier. Les gardes-côtes expliquèrent également que si, jusqu'alors, ils avaient gardé le silence, c'est qu'ils ignoraient absolument que le blessé fût Alcide Troadec, et que la révélation leur en avait été faite tout récemment par un voyageur installé depuis plusieurs mois à l'auberge tenue par Madame Troadec à Camaret, Monsieur le Chevalier de l'Espervier. Un hasard de la conversation les avait amenés à cette intéressante découverte, et sur le conseil du chevalier, ils avaient fait leur déclaration à leur chef, qui l'avait communiquée aussitôt aux autorités brestoises. C'est ainsi qu'ils avaient été cités comme témoins. L'alibi était net, précis, irrécusable. L'impression produite par ce témoignage sur le tribunal fut d'autant plus favorable que, si les officiers de marine qui le composaient ne se sentaient aucune faiblesse, aucun attendrissement pour ce paysan brutal des montagnes d'Arrée, pour ce chouan sauvage, fanatique, dont les exploits sanglants les révoltaient, ils avaient vu avec une certaine émotion l'accusation portée contre Cornélie Troadec, qui avait appartenu à la marine avant d'être pêcheur, et dont les états de service étaient excellents. Ce fut un soulagement pour eux de voir surgir cet alibi inattendu, et de pouvoir écarter de la tête de cet homme, de celle de ses fils, une accusation infamante et capitale. Dès lors, leur conviction étant faite, une fois les débats terminés, le jugement pourrait être immédiatement rendu. En conséquence, Mathieu Plourac, dit Massacrebleu, convaincu d'assassinat et de vol des deniers de l'État, fut, à l'unanimité, condamné à mort. La sentence était exécutoire dans les 24 heures. Le lendemain matin, il serait fusillé à bord même du vaisseau sur lequel il se trouvait. Le condamné écouta avec une physionomie de défi tranquille la lecture du jugement qui ne lui accordait plus que peu d'heures à vivre. Il leva la main droite, semblant saluer quelque vision merveilleuse, et cria de sa voix rude
« Vive le roi !»
Un rayon de joie éclaira un moment ses traits sombres lorsqu'il apprit que Cornélie Troadec et ses fils étaient acquittés, aucune charge n'ayant pu être relevée contre eux, et le fait de leur évasion ne constituant plus un délit puisqu'ils n'étaient pas coupables. Aucun nuage n'altérait la pureté de ce grand ciel d'été étendu au-dessus de la mer quand un coup de canon partit de l'avant du Républicain. La fumée roulait encore, tourbillonnant en flocons épais à la surface de l'eau, qu'une sonnerie de clairons éclata à bord et que tous les bâtiments en rade mirent leur pavillon en berne. Un frémissement courut à travers la foule massée sur le cours de la Réunion. Une rapide ondulation courba toutes les têtes dans la même direction. Et il y eut une agitation d'un moment aux fenêtres du château donnant sur la rade, en même temps qu'un brouhaha sourd s'élevait, s'étendait et mourait. Puis ce fut un silence absolu. Là-bas, sur la poupe du bâtiment, un mouvement sembla se faire. Un peloton de fusiliers marins se détacha, sortant de l'écoutille et venant prendre position. On distinguait l'éclair des armes, l'or des galons, des épaulettes des officiers. Une masse sombre se groupa, formant deux rangs de soldats alignés coude à coude, l'arme droite. Ensuite, dans l'espace vide qui se trouvait placé au-dessus du couronnement de la poupe, un homme parut, amené par deux marins. De la terre, on entendit très distinctement un chant qui montait dans l'air pur, des paroles lancées par une voix qui ne tremblait pas, des cœurs battirent dans cette foule bretonne, un peu d'humidité embua bien des yeux. Plus d'un reconnaissait dans ces syllabes attendries la grande mélancolie de la terre d'Armorique, et c'était comme l'âme de la Bretagne qui flottait au-dessus de cette scène tragique.
An hinigose ovadus, an hinigose ovasur.
Et, immédiatement après le refrain, les mots touchants, l'affirmation de la foi bretonne. La vieille pense à mon bonheur, c'est elle qui plaît à mon cœur. Puis, peut-être un regret, un adieu à celle qu'il ne pouvait aimer. Et pourtant, à ce que je vois, la jeune est plus belle sans foi. Un commandement qui vibre sec, un cliquetis des fusils qui s'abaissent, et presque aussitôt, un éclair sanglant, le roulement du feu de peloton. La fumée monte en auréole au-dessus d'un corps immobile, renversé sur le plancher de la poupe, tandis que le drapeau tricolore glisse jusqu'en haut du mât instantanément, et que les vergues reprennent leur position normale. Des marins s'occupent rapidement d'envelopper d'un linceul le cadavre qui est lancé à la mer un boulet au pied. Une rumeur confuse emplit Brest de son bourdonnement. La foule abandonne le cours de la réunion pour retourner à ses occupations de chaque jour, mais dans plus d'une mémoire, à côté du bruit sinistre et déchirant du feu de peloton, ce qui subsiste, persistant, tenace, c'est la plainte de mélancolie et de poésie chantant l'antique Bretagne.
An hinigose ovadus, an hinigose ovasur.